Europe Soir,
le 18-20,
Julien Bugier.
Avec la suite du débat des grandes voix, Michel Cotta, toujours à mes côtés, Bruno Cotresse, politologue et chercheur au CEVIPOF, et Olivier Perroux, journaliste au Point. Alors, un peu d'espoir maintenant, ça nous fait du bien, un retour à la vie normale se dessine, nous dit-on, pour l'automne prochain. C'est ce que prédit le gouvernement et c'est ce que semblent indiquer aussi les prévisions de l'Institut Pasteur à quelques conditions, qui va d'ailleurs peut-être pousser les plus réticents à se faire vacciner. On va en parler, d'abord on écoute le président de la République, hier, dans son message à des collégiens.
On aura, par cet effort collectif, là des quatre prochaines semaines, bien freiné le virus un peu partout. Et puis on aura continué d'accélérer la vaccination, ce qui nous permettra d'être dans une situation plus confortable et de continuer cette course de vitesse en quelque sorte, de prendre le virus en tenaille entre les mesures de freinage et la vaccination. Et donc je pense que jusqu'à la fin de l'année scolaire ensuite, il ne devrait pas y avoir à nouveau de confinement.
Voilà, plusieurs étapes à Bruno Cotresse. Un retour à une forme de déconfinement mi-mai, nous prédit le président de la République. Et puis une vie quasiment normale, entend-on, arrivée à l'automne. Ça veut dire plus de masques, plus de gestes barrières et ouverture des restaurants. La vie d'avant, la vie rêvée, vous y croyez, vous ?
Le retour des jours heureux.
Le retour des jours heureux,
le président
évidemment.
De la République, il l'avait annoncé il y a déjà quelques mois. Donc on voit que c'est très difficile quand même. Il a raison en même temps de dessiner des perspectives positives. Parce
c'est
que
ce qui nous manquait.
L'état de l'opinion est gravement plombé. Moi, j'ai analysé récemment les données d'un sondage BVA sur ces questions. Le climat de l'opinion est quand même extrêmement préoccupant. On a plus des deux tiers des personnes qui sont soit extrêmement dans un sentiment de perte de sens, de perte de repère, on est perdu, on ne sait plus qui a raison, qui dit la vérité. Des gens aussi qui ont un sentiment de profonde indignation par rapport à la situation. Et dans mes estimations, dans mes calculs, je trouve que 29% d'optimistes. Donc il est largement temps que la situation se redresse parce qu'on voit que l'État psychologique du pays, c'est pas seulement les jeunes, les étudiants, c'est plus généralement dans de très nombreuses couches de la population où on aspire à un vrai bol d'oxygène à la rentrée, effectivement.
Bon, quelques précisions, Michel Cotta, quand même, pour ce retour à la normale, nous dit l'Institut Pasteur, il faudrait que 90% des adultes, 90% soient vaccinés en France d'ici le 1er septembre pour espérer ce retour à la normale et à la vie d'avant. Ça fait beaucoup quand même, 90%.
Il y a au moins deux interrogations. La première, c'est est-ce que le rythme des vaccins sera à la hauteur. Et la deuxième, c'est quand même, dans les sondages, on apprend aujourd'hui que 57% seulement des Français accepteraient de se faire vacciner.
Oui, on est loin des 90%.
Dans ce cas-là, on est loin des 90%. Et dans ce cas-là, il faut rendre la vaccination obligatoire. Et après tout, il y a d'autres vaccinations obligatoires. Il y en a d'autres quand on est bébé. À ce moment-là, il faudra sûrement que l'exécutif prenne une décision très, très, très difficile à prendre.
Bonne idée, ça, la vaccination obligatoire. C'est forcément par ça que passera la fameuse immunité collective ?
Je ne sais pas, mais quand on lit les travaux de l'Institut Pasteur, en effet, on se dit qu'il est très difficile de ne pas passer par la vaccination obligatoire. Si on doit attendre justement que 90% des plus de 65 ans et 70% des 18-70 ans soient vaccinés pour avoir justement un retour à la vie normale et aux jours heureux. Mais il y a une question sous-jacente dans cette histoire, c'est la vaccination des jeunes, des enfants fait. Parce que tant qu'on ne les a pas vaccinés, qu'est-ce que les écoles deviennent ? Les écoles resteront des nids à transmission du vaccin tant qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc
vous avez raison, parce que les symptômes sont assez faibles chez les moins de 18,
mais en tout cas, ils sont transmetteurs
du virus. Sauf que le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas les doses. On peut débattre de la vaccination pour les jeunes,
mais
on n'a
pas les doses.
On n'a
pas les doses. Ça fait 4 ou 5 mois que nous sommes en train de parler d'accélération. Et finalement, en l'état actuel des choses, on a AstraZeneca qui est très lent parce que les gens n'en veulent pas.
On va en parler.
Voilà, et on a Pfizer. Là, on commence justement à produire sur notre sol des vaccins qui ne seront pas forcément pour le public français, donc qui vont être pour l'Europe, une petite part. Et finalement, on aura ça dans un mois. Donc le retour aux jours heureux, au mieux à la rentrée...
Vous n'y croyez pas ?
Je n'y crois pas.
En tout cas, il y a une information importante. Je vous la livre en exclusivité, puisque c'est ce que nous a dit tout à l'heure la directrice commerciale de Moderna. Ça y est, le laboratoire travaille sur un vaccin pour les enfants à partir de 6 ans. Et aux États-Unis, ça ne pose pas débat. Ils ont commencé d'ailleurs à ouvrir la vaccination aux plus de 16 ans.
Ça posera débat sans aucun doute en France, parce qu'on voit que la question de la vaccination, c'est une question plus ample, beaucoup plus large que la simple question de la vaccination en France. On l'a vu récemment dans notre enquête du CEVIPOF, le baromètre de la confiance politique, qu'on a publié au mois de février, France, Allemagne, Angleterre, Italie. Et on voit que sur les 4 pays, c'est en France que l'adhésion à la vaccination est à la fois la plus faible, avec des vraies poches de résistance.
Toujours aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, et ces poches de résistance...
On pensait qu'il y avait une bascule qui s'était opérée.
Pas vraiment, il y a toujours des poches de résistance qui sont clairement qu'une partie des Français voit avec défiance aussi qui est le prescripteur.
Oui.
C'est pas seulement la vaccination, mais qui prescrit la vaccination ? Le gouvernement. Et derrière la crise de confiance dans la vaccination, il y a aussi la crise de confiance dans les institutions en France.
Michel Cotta.
Il y a des vaccins obligatoires quand on est au bébé. Mm. Alors, quand les gosses ont 3 mois, on les vaccine sans problème, et on ne les vaccinerait pas à 6 ans.
Ouais.
Même s'il y a des réticences, évidemment.
Mais c'est plus facile de forcer un bébé de 6 mois qu'un individu de 45 ans. Vous en conviendrez,
ça dépend.
Michel. Et si les gens ne veulent pas se faire vacciner, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas aller chercher chez eux avec la police, quand même. On ne peut pas faire ça.
Non, mais on essaye de rendre ça le plus... On verra, d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit quand même que beaucoup plus de gens se font vacciner que ce qu'ils disent.
Il y aura peut-être une obligation sociale de se faire vacciner pour aller dans les musées, pour prendre l'avion, pour prendre le train.
Mais bien sûr, mais puis quand son voisin se fait vacciner, justement, ça amène un autre voisin à le faire. Si tu l'as fait, j'irai aussi. Donc finalement... La France, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis, ils arrivent à vacciner massivement. C'est un pays d'une population qui est quand même assez complotiste. Et bien finalement, ils arrivent malgré tout à vacciner. Je pense qu'une fois qu'on aura les vaccins, les Français iront se faire vacciner.
Bien. Défiance, on en parle dans quelques secondes. Les raisons de la défiance, comment l'expliquer ? Et puis l'arrivée de millions de doses. Parce que ça y est aussi, les vaccins arrivent massivement en France. À tout de suite. Allez, la suite du débat des grandes voix du mercredi avec toujours Michel Cotta, Bruno Cotterès, politologue et chercheur au CEVIPOF, Olivier Perroux, journaliste au Point. Je voudrais votre avis, Bruno Cotterès, sur les raisons de cette défiance qui remonte avec l'AstraZeneca. L'Agence européenne des médicaments a confirmé aujourd'hui que la balance bénéfice-risque du vaccin reste positive, mais les Français, eux, sont méfiants. On pensait qu'on avait atteint un point de bascule où la défiance était en train de reculer. On s'aperçoit que c'est l'inverse. Avec un phénomène assez dingue, c'est que certains Français assimilent AstraZeneca à Moderna, qui n'a absolument rien à voir, mais on commence à voir une espèce de méfiance aussi vis-à-vis du vaccin Moderna.
Il faut dire qu'il y a une défiance, on l'a dit tout à l'heure, à propos de la vaccination en France, qui est assez importante. En fait, c'est paradoxal dans un pays qui a fait justement de la question de la vaccination de Pasteur, mais il se trouve que la question de la vaccination en France, elle a à voir beaucoup avec la question du civisme, avec l'idée qu'on protège les autres. Si on ne se protège pas seulement soi-même, on protège les autres. Et en ce moment, on est dans une période où la crise de défiance dans la politique, la perception qu'ont les Français que la France ne va pas très très bien, évidemment est un obstacle, un frein supplémentaire. Oui. Donc AstraZeneca, dans ce contexte-là, avec le doute qu'ont les Français aujourd'hui, je pense de nombreux Européens aussi, sur qui dit la vérité en matière scientifique. Depuis un an, nous sommes scotchés devant nos écrans de télévision à avoir des avis...
Avec des scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux, d'ailleurs.
Donc il y a un doute, et s'il y a un doute, et même si ce doute était levé, qu'on dise il y a bien un lien de cause à effet, mais il ne concerne qu'une toute petite partie, un risque extrêmement faible, je crains que pour le vaccin AstraZeneca, ça va être très compliqué de s'imposer aux yeux des Français comme quelque chose dans lequel on peut avoir confiance.
Il y a une bonne nouvelle au milieu de tout ça quand même, Olivier Perroux, c'est qu'il semble qu'on est en train d'atteindre le pic de cette fameuse troisième vague. On voit par exemple que le niveau de contamination dans le Nord, qui a confiné très tôt, avec d'abord les week-ends, avant l'Île-de-France, on s'en souvient, commence à refluer, ça commence à baisser.
Heureusement, ça veut dire que les mesures qui ont été prises, certains disent
tardivement...
Vous vous
souvenez,
beaucoup
de scientifiques, beaucoup de médecins, beaucoup d'urgentistes nous avaient dit que ce n'est pas suffisant là, les mesures du gouvernement, il faudrait refermer la France de façon stricte.
Bien sûr, et c'est là où Emmanuel Macron justement a coupé un peu la poire en deux, et on voit que cette gestion finalement apporte quelques fruits. Mais encore une fois, ça va être... c'est lié au vaccin, c'est lié à notre sujet des vaccins, c'est jusqu'à quand si on ne vaccine pas, est-ce que justement on ne risque pas d'avoir un repic encore une fois ? Il faut un maximum, et c'était un peu le sens du message d'Emmanuel Macron aux collégiens, c'était au maximum éviter un repic de l'épidémie, justement en vaccinant, pour éviter un reconfinement d'ici la fin de l'année scolaire. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, mais à suivre de près en relation avec la vaccination.
Michel Cotta.
Oui, mais c'était le pari, au fond, de Macron. Alors on va voir, il n'est pas encore ni gagné ni perdu, mais le pari, c'était faire monter la vaccination en même temps qu'on n'enfermait pas les Français. C'est toute la bagarre entre enfermistes, comme on dit maintenant, et non-enfermistes.
Oui.
Voilà, c'est en cours. C'était à la fois un pari politique et sanitaire. Peut-être, après tout, les choses ne sont pas toujours catastrophiques. Peut-être que ça va marcher.
Il a fallu du temps quand même pour prendre se mettre d'aplomb sur l'autoroute, hein, comme on dit. Les vaccinodromes, on nous avait dit non, et puis finalement c'est oui, maintenant ça y est, c'est parti, hein, avec d'ailleurs l'armée qui a monté 7 vaccinodromes, qui vont vacciner quand même 50 000 Français par semaine, ça n'est pas rien. Les autotests, ça y est, c'est parti aussi, là, l'autorisation a été donnée pour, dans quelques jours, dans les pharmacies. Et puis les doses qui arrivent, hein, 12 millions attendues ce mois-ci, le cap des 10 millions de vaccinés est franchi, là, je crois qu'on y est, quasiment, puisqu'on a 48 heures de retard sur les chiffres que donne Vaccin Tracker, mais ça y est, ça avance quand même, ça progresse.
Oui, heureusement, parce que le début a été laborieux. On se rappelle que le début, au moment où Olivier Véran dit qu'on peut aller sur le site santé.fr pour prendre des rendez-vous de vaccination, c'était rigoureusement impossible d'avoir un rendez-vous de vaccination. Oui. Donc le démarrage a été absolument calamiteux.
Oui.
De ce point de vue-là, depuis 2 ou 3 semaines, on sent, comme vous le dites, qu'il y a un changement de braquet.
Oui.
On voit à la fois une accélération de la communication, des campagnes de communication. Le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure dans sa communication sur la vaccination, l'ouverture des vaccinodromes. Et les vaccinodromes, ça peut être extrêmement intéressant parce que je le disais tout à l'heure, il y a une question de civisme à travers la vaccination. Donc avoir des lieux un peu consacrés à la question de la vaccination, faire de la vaccination quelque chose un peu comme on se rend au stade d'une certaine manière. Je pense que ça va dans la bonne direction.
Mais ce qui est fou dans ce que, quand je vous écoute parler, c'est que vous parlez des nouveaux outils qui sont mis en place. On s'aperçoit que ces nouveaux outils, ils ont été bâtis par la société civile. Je pense notamment au logiciel Vite Ma Dose, qui simplifie la prise de rendez-vous. Même Doctissimo, c'est un acteur privé. Ça veut dire que aujourd'hui,
qui explose d'ailleurs,
qui explose et qui marche très très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout. L'État n'y arrive pas tout seul.
Je ne sais pas si c'est l'État qui ne peut pas tout, mais c'est peut-être parfois l'État qui ne regarde pas ailleurs où sont d'autres talents. Enfin, c'est quand même, enfin, Vite Ma Dose, pardon de l'expression, enfin, je dis ça en ayant 30 ans, mais c'est des gamins qui ont fait ça. Enfin, c'est des très jeunes qui
ont... Guillaume Rosier, qui est le jeune développeur qui a développé le site Vaccin Tracker.
Donc, finalement, si nous étions vraiment en guerre, comme le président de la République l'a dit à l'époque, eh bien, il aurait fallu mobiliser toutes ses forces hors de l'État, parce que Emmanuel Macron, et c'était son credo en 2017, il le disait déjà, l'État ne peut pas tout, et c'est voilà, finalement, c'est la définition même du libéralisme. Et c'est d'aller chercher les forces, toutes les forces, où elles sont.
Oui, alors, il y en a un autre qui s'appelle Covid-List. Hein, je dis ça pour tous les gens qui nous écoutent. Il y a Vite Ma Dose, il y a Covid-List, qui simplifie, grâce à des algorithmes, les places libres, les populations qui ont droit à l'accès au vaccin, et puis l'endroit où on se trouve. Michel Cotta.
Oui, donc, si on parle de ce vaccin, c'est vrai qu'il a fallu naturellement... les fonctionnaires, il y a des lobbies de fonctionnaires là. Même on en parlait tout à l'heure, même si l'autotest est fait uniquement en pharmacie, c'est bien parce que les pharmacies ont protesté à l'idée qu'on les mette dans les grands magasins. Donc tout ça, un pays de fonctionnaires, on est bien obligé de l'assumer quand on est tête de l'État.
Pays très administré en tout cas.
C'est un pays très administré, mais peut-être si on veut être optimiste aussi. Il y aura des créations d'emplois absolument formidables.
Bien, on
Là, on en voit, et il y en aura qui changera, qui marqueront des marqueurs de l'après-crise.
Bien, on est contraint de s'arrêter. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mercredi.
Europe 1, Julien Bugier.